Bon, merci de m'avoir invité, merci à tous. Je commence à être familier maintenant, je suis venu il y a 2 ans. Hier, je suis venu en tant qu'organisateur de spectacle, qui est nullement mon métier. Mais mon métier, en effet, c'est être ethnomusicologue. Et sur ce thème de l'improvisation, j'ai travaillé il y a fort longtemps. Et c'est une problématique qui s'est développée dans ma petite tête dans les années 80. Et d'ailleurs, qui a été très importante, je dirais, au niveau, au-delà même de nos frontières, parce que lorsque j'ai créé ou participé à la création du séminaire européen d'ethnomusicologie dans les années 80, avant la chute du mur de Berlin, j'insiste, on voulait désenclaver déjà l'Europe et on avait choisi comme thème, curieusement, je ne sais pas pourquoi, ça m'intéressait tout simplement, l'improvisation dans les musiques de tradition orale. Donc mon discours, c'est quand même sur l'oralité essentiellement et sur les musiques qu'on appelle et continue d'appeler musique traditionnelle. Alors je vais un peu développer l'argument. Le problème, c'est que j'ai pas énormément de temps et que je vais donc un peu sacrifier les exemples musicaux. Par ailleurs, étant ethnomusicologue, ça risque d'être quelquefois un peu technique. Bon, si vous vous ennuyez, tant pis, mais je fais quand même gaffe qu'on ne fasse pas trop de solfège. En plus, le solfège, ce n'est pas la clé de la musique. Le solfège est un moyen, comme un autre, d'aborder des problèmes de musique. Ok. Alors, peut-être que je vais m'approcher de ce truc parce que... On peut approcher l'écran un peu, non ou pas ? Je vais me déplacer. Problème de définition, bien sûr, on n'y échappe pas. Et donc, je vous invite à lire le texte. Pour différents qu'ils soient en apparence, les musiciens improvisateurs ont en commun de ne pas reproduire une musique au préalablement pleinement standardisée, vous savez lire. J'ai mis écrite. Alors l'écriture, je ne parlerai pas du problème du rapport entre l'écrit et l'oral. Considérez quand même que ce clivage, il saute un petit peu depuis le bouquin de Goody que tout le monde connaît, La raison graphique. Dans la mesure où, si on pensait les choses très simplement, avec des mots très simples, entre une représentation écrite et une représentation mentale bien mémorisée, il n'y a pas une différence si grande. Hein. Tant est vrai que quand on pense aux règles coutumières, ce sont des règles qui quelquefois ont un pouvoir plus fort encore que des règles écrites. Par ailleurs, le papier, quelquefois, ça se perd, tandis que la mémoire, quelquefois, ça reste. Donc il y a un équilibre en fait entre règles écrites et règles orales qui fait que les clivages ne sont pas aussi simples que ce qu'on croit. Deuxièmement, de produire sur l'instant, c'est-à-dire au moment même de l'exécution, des énoncés inattendus et imprévisibles. Première question, quand on écrit ça, qui peut apparaître comme une espèce d'ébauche de définition, qui nous suffit, je crois, pour travailler, quand on dit l'imprévu, mais pour qui en fait ? Et je voudrais vous donner 2 exemples, c'est ce que j'ai écrit en vert. Le premier, c'est vient d'un musicien libanais qui joue du luth et de la flûte, sur lequel a travaillé un grand musicologue américain qui s'appelle Bruno Nettle, qui a publié un bouquin sur l'improvisation, après le mien d'ailleurs. Et on lui a fait donc entendre ses enregistrements après que Bruno Nettle ait fait les analyses musicologiques qu'il devait faire. Et il a regardé Nettle, et maintenant il est professeur à l'université de UCLA, il est libanais, mais il a fait un parcours universitaire, c'est un notable maintenant. Bon. Et il a dit, je ne savais pas que j'étais si prévisible. C'est-à-dire qu'il s'est surpris lui-même, en quelque sorte. Il pensait être beaucoup plus libre que ce qu'il était. En fait, il s'est rendu compte que lui-même produisait des récurrences, c'est-à-dire des choses attendues, sans le savoir, ou sans en avoir pleinement conscience. La deuxième anecdote, parce qu'il y aura quelques anecdotes, la dernière fois que je suis venu ici, je me rappelle que j'avais bien aimé les anecdotes d'Eric, alors je me suis dit, tiens, allons-y les anecdotes. C'est pas le problème des anecdotes, parce que ça fait marrer les gens, mais elles sont intéressantes dans la mesure où elles sont pleinement révélatrices. C'est pas l'anecdote idiote, c'est l'anecdote qui, dans le fond, quand on la cerne, ça va très loin. Sur une anecdote, on peut faire un livre, pour vous dire. Voilà, c'est ça qui compte. Donc la deuxième, même sur cette deuxième que je vais vous livrer, dans les années 80, à peu près à cette époque-là, je concevais ce livre sur l'improvisation. Je travaillais à la direction de la musique avec Maurice Fleuret, dont certains gardent le souvenir, je pense, et sous la houlette générale de Jacques Lang. Maurice Fleuret avait des idées assez précises sur ce qu'étaient les musiques populaires. Il m'avait confié d'ailleurs de m'occuper d'ouvrir un bureau des musiques traditionnelles. Le mot bureau me faisait marrer, parce que ça me faisait penser au bureau en Afrique, où les gens attendent des passeports qu'ils n'ont jamais. Bon. Donc nous avions un bureau des musiques traditionnelles, et Maurice Fleuret me disait, mais Bernard, il faut absolument décorer, il faut décorer les musiciens traditionnels, parce que on donne toujours des décorations à des vieilles badernes, à des inspecteurs de la musique, mais les paysans chanteurs, les cornemuseurs, trouvez-moi des gens. Et par chance, il y avait des frères Petreouche, que certains connaissent ici, des musiciens violonistes non tziganes, je crois, un est mort, me semble-t-il, de la Transylvanie, et qui jouaient du violon, ils étaient en tournée. Je dis, oh, bah, écoutez, hein, on ne va pas s'embêter à les faire venir, ils sont là. Je monte l'affaire, on leur fait des médailles, tout, toc, toc, on les reçoit à la direction de la musique. Il y avait tous les inspecteurs qui étaient là, c'était très impressionnant, un grand cocktail, champagne, bon, tout ça. Et Maurice Fleuret, il y avait peut-être Lang, d'ailleurs, je ne me rappelle plus, et leur met les médailles, et on les dit, bah, vous allez jouer quelque chose. C'était des musiciens absolument magnifiques. Alors, ils jouent une pièce, une vertite, je crois, une pièce, et pas trop longue, parce que je voulais pas que ce soit un concert. Et après, les inspecteurs très intéressés, surtout qu'il y avait des violonistes parmi eux, y compris des très bons violonistes, qui disent oh, « Vraiment, cette position du violon, c'est hallucinant, puis cette façon de concevoir la musique, c'est fluide. Est-ce que vous pourriez rejouer ?» Alors, ils disent « Oui, bien sûr, ils ne demandent que ça. » Vous pensez, les musiciens professionnels, ils adorent ça. Et moi, je leur pose la question « Mais est-ce que vous pouvez jouer la même chose que ce que vous avez joué ?» Et là, j'ai cette réponse que j'ai dû traduire aux gens qui m'entouraient. Il y en a un des frères qui me dit « Écoute, je ne sais pas. Vraiment, si on fait un effort, si on se concentre bien, on va pouvoir jouer deux fois la même chose. » Donc, le paradoxe est là. C'est-à-dire que ce qui apparaissait comme le plus difficile pour eux était le plus facile, et inversement. Donc, c'est intéressant d'avoir ces questions de point de vue. Je vais vous donner tout de suite un exemple qui vient de Roumanie, parce qu'on entendra quand même un petit peu de musique. Il faudra que quelqu'un m'aide pour le temps, parce que j'ai aucune idée du temps. Si quelqu'un avait la gentillesse de me dire 5 ou 10 minutes avant la fin, calme-toi, parce que sinon... En fait, j'ai fait 7 heures de cours au CNSM, il n'y a pas très longtemps, sur l'improvisation, et on n'a même pas fini. Mais il faut dire qu'on écoutait beaucoup de musique, en fait. Hein, et c'était très agréable, parce qu'avec des super musiciens, on pouvait jouer quoi, ce dont je parlais. Bon, on va tout de suite passer à un exemple assez intéressant. Dans mes études au nord de la Roumanie, j'étais confronté, ou en relation amicale, avec des musiciens professionnels, souvent tziganes, qui étaient des grands virtuoses et qui le sont toujours. Et il y avait quelque chose qui m'énervait un petit peu dans leur discours. Ils disaient, nous, on sait tout jouer. Ah, on sait tout jouer, on peut jouer ça, on peut jouer tout. Aucune musique ne nous fait peur. Il y a cette espèce de côté bravache, en quelque sorte, des musiciens qui savent tout faire. Mais bon, vous savez tout jouer, on va vous préparer un petit exercice. Parce que, dans le fond, l'ethnomusicologie telle que je la pratique, au moins, ou l'ethnologie, c'est ludique. Hein. On va vous faire 3 petites dictées musicales. Dictées musicales, c'est quoi? Non, ne vous inquiétez pas, on ne vous demande pas d'écrire les notes, parce qu'ils prétendent lire les partitions. En fait, ils ne lisent pas, très peu. Une fois, quand par exemple, on donne à un musicien tzigane du nord de la Roumanie une partition, il dit « Oui, je ne peux pas la lire parce que j'ai oublié mes lunettes. » Enfin, ils inventent des tas de trucs. En fait, ils lisent très mal. Bon, et ce n'est pas la question, parce que nous, ça nous est complètement égal, ce problème. Par dictée musicale, on voulait dire « On va vous produire un énoncé. » Énoncé au sens, vous voyez ce que c'est, quoi, une phrase mélodique, 2 phrases. Et vous allez les répéter comme ça, on voit, si vous comprenez tout de suite, si les doigtés tombent, etc. Et, alors, on aura pris 3 trucs. Je ne vais pas tout faire, parce que c'est très long. La première, c'est celle que vous allez écouter. On a pris une rhapsodie de Brahms qui était très très simple, selon nous, qui ne devait pas leur poser de questions. Pour des raisons, on avait des hypothèses hein, sur l'harmonie, etc. C'est... Bon, avec un peu de connaissance harmonique, on voit que tiens, ça peut coller par rapport aux romances qu'ils ont l'habitude de jouer, c'est bon. Après, on leur a collé un Vivaldi, les quatre saisons. Ça, c'est intéressant parce que... Eux, ils jouaient... C'est-à-dire que là, ce qu'on appelle l'anacrouse, il n'y a pas d'anacrouse dans la musique roumaine. Donc, en fait, on avait l'idée que leur conception mentale était déjà calibrée par leur propre savoir et ils traitaient les signaux qu'on leur adressait en les transformant immédiatement. Et la troisième, alors, c'était un grand plantage. C'était extraordinaire parce qu'il y a tellement de... Eric connaît bien ces musiques, le sait bien aussi. C'est des champions des rythmes asymétriques, hein. J'aime pas là, etc. Donc il y a des rythmes asymétriques. Et nous, on a pris notre grand classique, Bernstein. Et là, plantage total. Ce qui a fait rebondir complètement l'enquête, parce que donc il y a plusieurs façons de concevoir la symétrie, mais ça, alors là, c'est tout à fait autre chose. L'exemple qu'on va écouter, c'est cette fameuse rhapsodie de. Alors, c'est mon copain avec qui j'ai travaillé, qui est lui, bon violoniste, qui leur fait. La mélodie, et qui dit eh, prends mon violon. D'ailleurs, il a pris le violon du musicien, et dit à toi, vas-y, joue-le. Donc, on écoute ça, après, on réfléchit en termes d'improvisation.
Première victime, Jorge Negra, enregistré à Bayamare.
Je vous écoute.
A tutto.
A te tu mai.
Deuxième, Sorin Negra, le fils du précédent.
On va arrêter là, s'il te plaît, oui. Alors, voilà, c'est intéressant parce que d'abord, on voit d'abord l'intelligence musicale du musicien qui a compris tout de suite les plans de tonalité. Il n'y a pas eu de problème, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. On ajoute les affects, le rubato, tout ce qui fait partie quand même de l'art, de la romance, et ça marche. Est-ce qu'il s'agit d'improvisation ? Pas tout à fait. Je vous écris ça. Le modèle est donné. Le modèle, on va travailler beaucoup sur la notion de modèle. Je vais aller de question que de ça maintenant. La question de modèle est donné et joué. Il s'agit que de le reproduire avec plus ou moins d'audace, de l'approcher. Alors, il n'y a pas vraiment une intention d'improviser. C'est plutôt une espèce de paraphrase spontanée. Et le musicien essaie de retrouver quelque chose qui est dans la tête de celui qui lui a proposé la musique. On a fait pareil avec Mozart, c'était peut-être à la fin on écoutera ça, c'est magnifique. Parce qu'à un moment, on leur donne à un musicien un thème de Mozart, il dit, mais c'est qui votre Mozart là, c'est pas terrible votre truc. Et il joue, il fait une paraphrase de Mozart qui est absolument géniale, qui aurait beaucoup plu à Wolfgang Amadeus. Alors, en 1987, pour citer ce gros travail qu'on a fait, qui a duré 2 ans sur l'improvisation, sur lequel une quinzaine de chercheurs autour de ma pomme ont travaillé, il y avait des Allemands, Italiens, Roumains, etc., a donné lieu à un livre qu'on ne trouve pas, comme la plupart de mes livres d'ailleurs, je ne les cherchais pas, c'est même pas la peine. Ça a été publié par un petit éditeur qui s'appelle la CELAF. Alors, je ne sais pas comment faire si vous le consultez, dans les bibliothèques peut-être. On a cerné la notion de modèle. Et alors, il y aura deux grandes étapes dans mon élaboration. Je parlerai longuement de ces travaux de 87, que je m'attribue, mais en fait, pensez que derrière moi, il y a un peloton de gens qui ont travaillé. Et puis, le point où j'en suis, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai complètement changé d'optique sur le problème de l'improvisation, en termes analytiques, hein, je ne me passe pas du tout du point de vue général, en termes vraiment d'analyse musicale. Voilà le bouquin. La thèse du bouquin, je vais vous la résumer, ça vous évitera de le lire. C'est une construction, en fait, que je propose, qui part d'un postulat structuraliste. Rappelez-vous qu'en années 80, on était encore dans le structuralisme, y compris en musicologie. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que la musique, c'est une forme qui se décompose en sous-formes et qui se répond en tant que forme, hein, c'est-à-dire indépendamment, finalement, disons, des facteurs de production, de ce qu'on appelle de tout ce qui est des interactions, par exemple. Comme si les modèles, pensez au modèle de Lévi-Strauss, ça vous donnera une idée, quand Lévi-Strauss construit ses modèles, de même que nous, quand nous travaillions dans cette optique, on ne demandait même pas l'avis des musiciens, au bout du compte. On avait les éléments formels qui nous permettaient d'échafauder des modèles. Bon. Donc, finalement, l'improvisation, c'est une combinatoire. C'est une hypothèse. Je vous la lance, hein. Retenez-la, parce que ça peut quand même, je pense, alimenter la discussion de toute la journée. J'ai un petit schéma à droite. Et si c'est vrai, parce qu'on construit quand même d'autres trucs, nous sommes des scientifiques, hein, sous notre ère, malgré notre littéraire aussi, mais enfin, on sait ce que c'est qu'une pensée. Il s'agit de chercher des constituants de base, avec l'idée qu'il n'y a pas d'improvisation sans modèle, hein, et que si on travaille sur les modèles, il faut faire nécessairement, en tant que chercheur analytique, il faut faire une typologie des modèles. Il n'y a pas qu'un modèle, il y a plusieurs modèles. Voilà donc la réflexion. On a travaillé 2 ans là-dessus quand même, et je continue. Alors évidemment, ça crée une musicologie particulière. Le texte est en transparence. Il faut comprendre les processus d'improvisation et s'interroger non pas naturellement sur la forme, partir de la forme et essayer de comprendre quels processus sont en cause pour arriver à cette forme-là. Bien, je continue. Le modèle. Mettez-vous ça en tête, ça me ferait assez plaisir que ça serve de thème conducteur dans vos affaires de toute la journée. Je serai aussi là, naturellement, mais je ne parlerai plus puisque j'aurais parlé ce matin. Bon. Alors, il y a 2 conceptions. Le modèle est dans la tête des musiciens. Alors, débrouillez-vous, hein, prenez un scalpel si vous voulez fouiller dans son cerveau. Maintenant, il y a des images cérébrales qui n'existaient pas d'ailleurs à l'époque, qui sont naturellement l'avenir de la musicologie. Il ne faut pas non plus trop rêver. Je vous ai mis une image, c'est censé être le cerveau d'un improvisateur. Débrouillez-vous avec. Hein. Et en plus, je crois que les neuroscientifiques ne sont pas encore tout à fait au clair. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le cerveau est en effervescence. Alors, s'il y a des zones, quelles zones, pourquoi celle-ci, l'interconnectivité du cerveau est une chose si complexe. On est vraiment au balbutiement. Mais enfin, imaginez-vous quand même qu'entre fixer une improvisation sur le papier et interroger le cerveau, c'est pas la même méthodologie. Et puis de l'autre côté, c'est le texte. Alors le texte, je prends texte au sens large, c'est-à-dire la production sonore, qui peut se mettre sous forme de solfège, sous forme de sonagramme, sous forme de schéma, tout ce que vous voulez. C'est la résultante sonore proprement dite. Alors, un des problèmes qu'on a, d'ailleurs qu'on a très peu traité dans les années 80, c'est que l'improvisation ne relève pas du seul caprice de l'improvisateur, sauf, naturellement, cas particulier. Les musiciens professionnels, et je pense au trio d'Erwan que j'ai entendu, qui, dans le fond, exercent en pleine liberté et de plein droit leur art et leur technique et leur sens du son, etc., en pleine liberté. Ils ne vont pas consulter Paul, Pierre, Jacques, peut-être un copain qui leur dit « Tiens, on s'emmerde, ton truc. » Mais, d'ailleurs, on ne s'est pas emmerdé, ce n'est pas la question. Mais donc, l'idée, c'est pas... Moi, je suis dans un système où, malgré tout, la musique se compose ou se conçoit dans un cadre culturel avec, naturellement, ce qu'on appelle en Sardaigne, et vous avez assisté une partie d'entre vous au concert hier, « Sacritica ». Sacritica, c'est un concept majeur, c'est la critique. Hein. Si je chante un chant en faisant une variation qui ne plaît pas à Sacritica, je ne le referai pas une deuxième fois. Hein. Donc naturellement, là, les zones d'improvisation, les zones de liberté ouverte sont beaucoup plus restreintes. C'est un peu ce que disait madame, je ne sais pas son nom, cette femme qui a dit des choses si fines tout à l'heure. Voilà. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il faut que l'improvisation soit acceptée à l'intérieur d'un groupe. Alors, est-ce que c'est à l'intérieur d'un groupe, à l'intérieur d'un ensemble d'experts, à l'intérieur d'une région, etc. Donc, il y a à la fois un texte, modèle, figure, idée musicale, élément modal, emprunt, standard de jazz. Alors là, je ne sais pas si je vais pouvoir tout traiter. Les standards de jazz, c'est un très beau sujet pour ceux qui travaillent sur l'improvisation, parce que qu'est-ce que c'est qu'un standard de jazz, hein ? Il y en a certains qui sont clairs. D'autres beaucoup moins. Si vous prenez Around Midnight, Thelonious Monk, quelquefois, c'est pas toute la mélodie de Monk. Quelquefois, ça suffit. Ça peut être un élément pris. Alors, c'est pas le standard, c'est un bout de standard. Les interactions, alors surtout dans les musiques, comme vous avez entendu hier soir, les interactions sont absolument importantes et essentielles. Les chanteurs, je suis content de faire un commentaire ouvert sur ce qui s'est passé hier. Et combien de personnes ont vu le concert ? Ça me permet de rebondir pour ceux qui l'ont vu. Voilà. Oui, j'ai vu Franck, en effet, qui était au premier rang à filmer. Donc, il s'est passé deux jours très importants pour nous, à Brest, parce que les gens que j'avais amenés, j'aime bien vous le dire maintenant, ils sont en train de partir, d'ailleurs, il faudrait que j'aille les saluer tout de suite après. Ils n'avaient pas une entente formidable au départ. Et je me suis dit, Brest, c'est un bon coup pour eux parce que ça va remettre un peu les choses en place. Et on a été tellement bien hier à parler, à plaisanter, à boire, à être ensemble, à être aux aguets, à laisser personne dans l'ombre, etc., qu'ils ont chanté magnifiquement. C'est-à-dire que j'ai eu la production musicale que j'attendais parce que j'avais fait le travail. Vous savez, quand on fait une course de bagnole, les Formule 1, la compétition, elle se gagne, non pas sur la piste, elle se gagne du côté des mécaniciens qui règle les moteurs. Donc moi, je me tiens, je règle les moteurs après ils se démerdent. Et en fait, le moteur était bien réglé parce qu'ils ont très bien chanté. Il y avait suffisamment de tension entre eux, il en faut, pas trop, parce que sinon c'est une catastrophe, il y en a un qui aurait pu se produire, moi j'avais peur, qui tourne le dos, qui vient pas, etc. Je vous emmerde. Bon. Donc c'est dans ces choses-là que les choses se passent. Alors, parmi les acquis des années 87, 80, j'ai mis 87, parce que c'est la sortie du bouquin, mais ça a commencé dans les années 80, en fait. Alors, plusieurs... Je vous donne quelques... Très vite, on va aller très vite. Il y a la notion de cantus firmus, c'est-à-dire une voix dominante sur laquelle les autres se greffent, ce qui se fait beaucoup dans les polyphonies de Sardaigne, par exemple. Chanter, ce qu'on appelle aussi chanter sur le livre, ce qu'on appelait à la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. On avait un livre sur lequel il y avait un cantus firmus, et les gens improvisaient des voix en quelque sorte dessus. Alors ça, on n'est pas encore tout à fait dans l'improvisation, mais on est dans une variation tenue ou soutenue par un texte, au sens que je vous ai dit tout à l'heure, écrit. Mais il aurait pu ne pas être écrit. En l'occurrence, en Sardaigne, il n'est pas écrit. Après, il y a des compositions. Vous savez que dans les musiques de tradition orale, il y en a beaucoup. Il y a des gens qui se déclarent compositeurs. Il n'y a pas que Beethoven et Bach. Une composition en musique indienne, c'est assez particulier parce que ça n'a pas l'air très compliqué, mais enfin, c'est une composition. Les gens reconnaissent la composition, et c'est à partir de là que se développe le système d'improvisation. Les balungan, pour ceux qui connaissent les musiques magnifiques de Java et de Bali, c'est le nucleus, c'est la petite cellule de base à partir de laquelle va se construire cette grande polyphonie instrumentale sur le gamelan. Et donc, c'est ce qu'on appellerait un modèle composition. Vous comprenez le concept ? Hein, c'est clair. Je vous conseille d'ailleurs de regarder, si vous ne l'avez jamais fait, si vous ouvrez le site Cité de la musique, il y a un gamelan mécanique c'est-à-dire un gamelan, vous connaissez ce grand orchestre, etc. Et vous appuyez sur le bouton, vous voyez tous les instruments les uns après les autres, et la roue qui tourne, c'est extraordinaire à voir. Donc on voit bien là comment fonctionnent les improvisateurs, où ils s'intercalent et comment ça fonctionne. Deuxième exemple, ça c'est quelque chose qui est assez fréquent dans la musique de danse, c'est des formules. Des formules, notamment quand c'est souvent les musiques de danse ont des bases de musique chantée, je pense à l'octosyllabe. Donc on voit bien que la matrice de base, matrice métrico-rythmique, elle est là, et c'est ce qui permet souvent de marquer, de faire des marquages mélodiques par rapport à ce modèle-là. Bien. Il faut que je vous dise un mot d'une chose que vous connaissez peut-être ou que peut-être que vous ne connaissez pas. Je ne connais pas du tout, je ne vous connais pas, excusez-moi, mais bon. Le formularisme, c'est une chose qui est très connue dans la tradition orale. Le mot, il y a plusieurs façons de dire. La folle formularité, comme vous voulez. De quoi s'agit-il? Ça remonte à ce bouquin, qui est un chef-d'œuvre que je pense est quand même connu ici, Singer of Tales, de Milman Parry, qui a fait des études sur les épopées yougoslaves dans les années avant la guerre, je ne me rappelle plus très bien les dates, avec Lord and Parry, et après il y a eu des transcriptions de Béla Bartók, c'est un livre culte en quelque sorte pour nous, et où finalement Parry a démontré, je le dis en bref, mais peut-être, si vous le savez, dites-le moi, comme ça je ne développe pas, mais on gagne du temps, mais on a démontré assez clairement que l'épopée homérique, l'Iliade et l'Odyssée étaient chantées. Bon, mine de rien, ça a l'air de rien, mais c'est très important, en fait. Pourquoi? Parce que, bon, toutes les formules qu'on connaît bien, le système de formules, Achille au pied léger, etc., la déesse aux yeux pères, bon, dans la musique, on pouvait penser que la musique fonctionnait aussi comme ça. Et quand on travaille sur les ballades, moi j'ai fait un travail sur les ballades de Roumanie, on trouve en effet des éléments thématiques récurrents qui fonctionnent comme ça. Alors, le formularisme, c'est intéressant parce que la question, en musique, laissons tomber les épopées, est-ce que les musiciens ont des formules et comment sont ces formules et comment conditionnent-elles l'improvisation? Et j'ai pris le pire et le meilleur de tous, Charlie Parker, voilà, le plus grand improvisateur du monde, je crois qu'on peut le dire. Et m'appuyant sur des travaux d'ailleurs assez anciens qui ont été récupérés tardivement, quelquefois il y a des choses comme ça, d'un chercheur américain que j'avais d'ailleurs rencontré à Los Angeles, qui avait fait un travail sur Parker, sur la formularité chez Charlie Parker. Charlie Parker qui donne un espèce de flux incroyable, richesse folle, à une vitesse folle en plus, on parlait de bebop tout à l'heure, bon, toi tu parlais de bebop, voilà, cette formule, j'arrive pas bien à dire, bon, très vite, alors on le trouve, j'arrive pas à lire, mais en si bémol, on le trouve en ré mineur, on la trouve en do, on le trouve en fa. C'est-à-dire que Parker s'emmerde pas, excusez-moi, ne s'ennuie pas à suivre l'harmonie sous-jacente, il file ses formules, oh merde, 10 minutes, il file ses formules dans le foulé. Alors je l'ai fait jouer en effet par des saxophonistes à la fois altistes parce que, et aussi baryton, pour voir comment ces formules étaient tombées bien sous les doigts en quelque sorte. Bon, pas le temps de développer, voilà l'idée. Voilà un exemple de Parker, ça c'est très intéressant, enfin il faut quand même que j'en dise un mot. C'est Billy's Bound, vous connaissez ça. Bon, je chante très mal. Et donc, si on prend les 5 prises de Parker de ce standard, il fait 5. Vous le voyez là, c'est écrit, vous pouvez lire les notes, il fait 5, chaque fois qu'il rentre, ça n'a rien à voir avec l'énoncé précédent, c'est-à-dire qu'il avait vraiment l'improvisation chevillée au corps. Cet enregistrement Billy's Bounds qui date des années 50, avec Miles Davis et Dizzy Gillespie au piano, a été publié, et en fait c'est assez intéressant parce que c'est la version 4 qui a été publiée. Et je me suis toujours posé la question pourquoi ils ont pris la 4 plutôt que la 3 ou la 2. Et en fait, c'est Miles Davis qui était très autoritaire, qui avait choisi la version 4 parce que c'est là où il était le meilleur. On n'est gentil qu'avec soi-même, comme chacun sait. Alors, un mot sur le troisième type de modèle, les modèles d'apprentissage et ce que j'appelle aussi les modèles mères. Justement sur la Sardaigne, si vous aviez vu hier, il y avait du chant avec de la guitare. Et la guitare fait un accord, et là-dessus, il y a des chants qui se développent. Ces chants sont en constante variation, et je me suis dit, mais c'est pas possible, moi je n'ai jamais arrivé à faire une analyse présentable. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir les femmes, figurez-vous, pas par instinct naturel, mais tout simplement parce qu'elles avaient des façons de chanter, et vous l'avez entendu hier si vous avez été attentif, et des façons de chanter assez simples, qui leur est transmises par leur mère. Et les hommes, qui font toujours les malins, rajoutent des notes et des notes et des notes, et en fait, si on veut retrouver, disons, la mélodie originelle, dans la mesure où elle existe, parce qu'il ne faut pas rêver non plus, mais disons, un nucléus plus simple, il faut aller travailler avec les femmes. Et j'avais d'ailleurs appelé mon article, que j'ai publié dans la grande revue de Lévi-Strauss, L'Homme, Les femmes et les enfants d'abord, c'est un assez joli titre, ce qui voulait dire qu'il fallait travailler avec les femmes et travailler avec les gosses, que les gosses, ils apprenaient la guitare, ils faisaient grang, 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 ah ben ça va, j'ai compris, c'est pas trop compliqué. Et les femmes avaient, non pas qu'elles étaient idiotes, bien au contraire, mais elles avaient des schémas intellectuels et mentaux qui étaient des plus ancestraux que ceux des hommes. Alors là, oh, je vais passer ça parce que c'est un truc, comme déjà, il n'y a plus que 10 minutes. Alors, improvisation, là c'est un travail que j'ai fait sur la Sardaigne dont je voudrais vous parler parce qu'il confirmerait un peu cette idée de stock dont je parlais au début, hein, c'est-à-dire des énoncés qui viennent, qui sont tirés dans le chapeau en quelque sorte, dans la tête, mais imaginez que c'est un grand chapeau, il y a des billets, sur chaque billet il y a une petite formule, ou ce que j'appellerai plus tard des modules, et que pas tant de billets que ça, quoi. Il y en a, autrement dit, l'innovation dans les systèmes oraux, qui sont ceux que j'ai étudiés, notamment sur les danses de Sardaigne, n'est pas un ensemble ouvert. Et ça, je l'ai démontré par ce schéma qui a été fait, c'est un des schémas que j'avais produit à l'époque. Vous voyez comment c'est fait, le temps, ça va jusqu'à 25 minutes, et en haut, c'est le nombre de formules que le musicien introduit à l'intérieur d'un système de danse. On va écouter d'ailleurs tout à l'heure une de ces danses, mais vous en avez entendu hier aussi, encore une fois, c'était commode pour ceux qui étaient. Et donc, finalement, au départ, vous voyez, ça monte très vite, là, ma courbe. Il y a beaucoup de formules nouvelles, c'est normal, parce que le musicien joue, alors on arrive tout de suite à une douzaine de formules. Puis après, la courbe commence à se calmer, et au bout de 20 minutes... J'ai fait ça m'a pris un temps fou, vous imaginez, transcrire 20 minutes de musique note à note à une vitesse énorme. J'ai fait des petites fiches, c'était très amusant parce que j'avais comme un jeu de cartes, mais énorme, avec 200 ou 300, beaucoup de fiches, quoi, parce que quelquefois j'avais des doutes, donc je faisais des doubles. Et puis je pouvais jouer, la faire venir avant, etc. Je voyais que ça... Et au bout d'un certain temps, un musicien moyen, disons un musicien semi-professionnel, un peu comme celui que vous avez entendu hier, qui jouait de l'accordéon, ben il a dans sa tête, en gros, pour animer une danse de Sardaigne, 25 formules. Voilà, 25 formules. Naturellement, ça fait des combinatoires énormes. Si vous faites des maths, moi j'en ai jamais fait de ma vie, mais en tout cas, ça fait beaucoup de possibilités combinatoires. Voilà, là, ça c'est la première conclusion. Bon, il faut que je vous parle maintenant... du système de Launeddas, je ne vais pas aller jusqu'au bout de mon exposé, je crois que je vais faire que la première partie, ça sera plus cohérent. C'est-à-dire que mon flux improvisationnel s'arrêtera aux années 90, parce qu'après j'ai fait tout un travail qui n'a rien à voir avec tout ça, qui consiste à mettre à plat, ce qu'il y a de beau, c'est ça, c'est de détruire ce qu'on a fait. C'est-à-dire de mettre tout ce que je vous ai dit, c'est faux. Bon. Mais je vous montrerai pourquoi c'est faux. Mais c'est pas que c'est faux, c'est que ça, on peut le dépasser. Voilà ce qui m'intéresse. Et je vous dirai... Mais, l'année prochaine, parce que là, vraiment, je ne peux pas le faire maintenant. Donc, on va écouter le système sarde des Launeddas, qui sont donc des clarinettes triples, instrument très ancien, qui est un peu un prolongement, on pourrait dire, de l'olos grec. Vous savez, les fameuses olos, ces clarinettes doubles, à part que là, il y a un troisième qui fait bourdon. Et je me suis toujours posé la question, comment font les musiciens pour jouer pendant 20 minutes sans se perdre et en renouvelant constamment leur énoncé. Jusqu'au moment... Alors, on va écouter deux minutes de cet enregistrement de Léonidas Das et vous allez voir comment la musique se développe dans une espèce de grand sentiment de liberté. Et après, vous comprendrez mieux comment elle est construite. On peut écouter l'exemple 2.
Sardaigne, jeu de métamorphose par Bernard Lorta-Jacob, danse au Léonidas Das par Aurelio Porcu. Les quatre premières nodas et leur passeggius.
Voyez ce flux sonore. Et en vivant, je dois dire, chez ce musicien pendant 3 semaines, c'est vraiment des très beaux souvenirs pour moi parce que c'était un champion des oliviers, donc j'ai appris à tailler des oliviers, tout ça, à faire avec lui. Et le reste du temps, on parlait de musique. Il me dit, mais non, Bernard, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des nodas là-dedans. Je dis, ah, c'est quoi les nodas? Nodas traduisait, et merde, oui, 3 minutes. Donc, les nodas, ce sont des petites cellules de 8 mesures ou de 12 mesures, ça dépend. Et ça, c'est le cœur de notre système, concerto, ils appellent, système d'improvisation, si vous voulez. Et, mais comment je fais, moi, pour les repérer? Ça continue même. Et ils commencent à me les jouer, impossible de les reconnaître. Mais attends, mais finalement, on est arrivé au fait qu'il va me les chanter. Et il me dit, entre les nodas, on fait des passeggios. C'est-à-dire que c'est une suite, comme thème et variation, si vous voulez. Et dans un concert ou dans une sonate, comme ils disent aussi, il y en a une vingtaine. Voilà. En revanche, on a un système à la fois fermé et ouvert. On a 20 nodas, mais vous pouvez rajouter autant de passages que vous voulez. Si vous faites que les nodas les unes après les autres, ce que j'ai fait faire aussi, ça dure 1 minute 30 la danse. Si vous laissez le musicien qui est en forme, il y a des interactions, les danseurs sont là, etc., il fait bon, tout est bien, hop, il rajoutera 3 passages, 4 passages, 5 passages, et puis passera à la noda successive. Encore 4 ou 5, quelquefois 5, 6, silence. Voilà. Une fois qu'il sera passé à la 3e noda, il ne pourra pas retourner à la seconde. C'est un système avec ce qu'on appelle un système à parcours obligé. Alors, c'est un système où il y a des formules qui doivent être assignées toujours à la même place et plutôt dans le même ordre. Et entre les formules, vous pouvez rajouter, entre les os, vous pouvez rajouter tout le gras que vous voulez pendant le temps que vous voulez. Si un musicien, il lui arrive, notamment dans son école à lui, parce que c'est un musicien presque professionnel, on pourrait dire, attaque la 14e noda, il ne pourra faire que la 15e, la 16e, etc., jusqu'à la 25e, s'il veut s'arrêter à la 25e. Il ne pourra pas retourner à la 13e. Il me dit, ouais, tu sais, comme les métaphores, c'était à l'heure de la bouffe. Tu vois, c'est comme un déjeuner. Hein. On commence par les pâtes, après il y a le premier, il y a le deuxième plat, après il y a le dessert. Tu ne peux pas retourner après à manger du saucisson une fois que tu as mangé le dessert. Donc c'est pareil, ça se construit de cette façon-là. Alors on va juste écouter ça, parce que malheureusement je vais être obligé de m'arrêter après. On va écouter l'exemple suivant, où le musicien me chante et puis me les joue. C'est-à-dire qu'il a tout dans la tête, les nodas. Les passeggios, non, parce qu'ils tombent comme on veut entre les nodas. On va écouter ça, puis on va arrêter là, malheureusement, je suis un peu navré.
Syllabation des 4 premières nodas et leur réalisation musicale.
Si fa una introduzione, fai. Da 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 Alla seconda. Da di da da di da da di da da di da 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 da. Alla terza. Dai da da di dai da da di da 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 dai da da di da dai dai da 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 dai da da di dai da da di da. Alla quarta. Da 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 di da 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 di 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 da 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 di da 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 di da 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 di da da.
Voilà, un mot de précision, puis je conclurai sans conclure. Il faut que naturellement, quand on fait des passages, il faut que les passages soient très proches de la noda, c'est-à-dire de l'os. Hein. Et donc, lui, il me raconte des choses, mais c'est toute une histoire. Il me dit, par exemple, il lui manque une idée, donc il va se promener, il va écouter les copains, après il réintègre tout ça dans sa tête. Il me dit qu'il prenait quelquefois l'autocar, parce qu'il y avait un bon joueur de la nodas, c'était dans les années 60. Et il connaît tous les horaires de tous les pullmans, de tous les trucs, parce qu'il connaît bien son pays. Et là, il entendait un type, et il se le chantait pendant tout le retour, il dit « Ah, celle-là, je vais me la mettre à la 14e, ça va être drôlement bien. » Et donc, il intégrait comme ça. Ça, c'est le border dans le no border, ou c'est le no border dans le border. C'est-à-dire qu'il allait piquer aux autres dans le Trecento, ville. Il y a des tas de petites micro-régions, des styles différents pour les intégrer, et il savait où les mettre, parce que ça ressemblait à ce qu'il connaissait, disons, de ses nodas précédentes. Donc voilà un système intéressant parce qu'il ménage à la fois la chose transmissible, de maître à élève, on ne transmet que des nodas, et les élèves doivent être libres de leur passages. Et plus ils sont bons musiciens, plus ils font des passages. Le drame qu'on vit maintenant, c'est que les musiciens étant des très bons musiciens, il y en a deux, trois en Sardaigne, il y en a un qui s'appelle Aurelio Porcu, qui est mort, malheureusement, c'était mon maître, même si j'ai pas beaucoup joué de cet instrument, et Luigi Lai, qui encore est très 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 connu. Seulement, lui, il est tellement glorieux qu'il apprend, tout le monde joue comme lui, quoi. En fait, on est en train de perdre le système. C'est-à-dire, on reproduit une improvisation. On a fixé l'improvisation et on est en train de perdre, fort malheureusement, les ressources vives, les passages, ce qui deviennent comme des nodas, ce qui reprennent le statut de partition mentale fixe. Alors qu'en fait, non, on a une partition mentale fixe qui tient en 1 minute 30 de musique, et tout le reste, c'est du libre. Et donc, dans cette articulation du libre et du fixe, on est au cœur de l'improvisation. Je suis obligé de m'arrêter là. Vraiment, vous me coupez les jambes, mais c'est un peu de ma faute. Je savais que ça serait long. Voilà, merci.